Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle. On est vendredi, il pleut dehors, mais je suis quand même très heureuse d'être chez Chloé Thibault.
Ça Bonjour, va ça va et toi?
Oui, ça va. Je suis très contente de te retrouver après notre rencontre au Pop Woman Festival. C'était le 7, 8, 9 mars, si je ne dis pas de bêtises.
Mais oui, on s'était déjà vu l'édition précédente.
Oui, c'est vrai. Mais là, on a eu un peu plus le temps d'échanger, de vivre une soirée un peu mémorable stand-up, mais tout ça restera à Reims. Ce qui se passe à Reims, c'est à Reims. Du coup, aujourd'hui, on va parler de toi. On va parler de ton dernier livre que j'ai eu la chance de lire en avant-première. Et on va parler, évidemment, comme d'habitude, ici, de communication. En plus, c'est chouette parce que tu communiques beaucoup sur Instagram. Tu te mets beaucoup en avant. Donc voilà, on va aborder ça.
Ah oui, c'est ton impression ?
Bah ouais, quand même, tu vois, tu fais des vidéos face cam de temps en temps quand même.
Oui, mais alors c'est pas moi qui me filme moi-même.
Oui, mais tu les repartages.
Oui.
Il y a des photos de toi, tu t'écris des textes, t'as pas de problème à te mettre en avant sur les réseaux, ou pas, ou si peut-être, tu vas en parler.
Non, je t'écoute, c'est hyper intéressant d'avoir un retour là-dessus.
T'avais pas cette vision-là ? Forcément.
C'est l'expression « tu te mets en avant », ça m'a un peu... Je me suis dit, ça veut dire que je me la pète.
Non, pas du tout. Bah, non, je pense pas. Et puis, c'est aussi bien de se mettre en avant quand on fait des travaux. Enfin, c'est aussi notre travail. On produit des choses. Donc voilà, on est notre premier...
bien sûr.
La première personne qui va promouvoir ça. Donc,
on va en parler.
Tu le fais très bien.
je ne cherchais pas les compliments. C'est juste que ça m'interroge parce que c'est assez rare d'avoir un retour sur ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, tu vois.
Bon, bah, chouette.
C'est ton métier, tu as l'œil.
Trop bien, on va en parler. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Tout à fait. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans, je suis journaliste indépendante et autrice. Je suis aussi pianiste amateur, passionnée de culture, passionnée de chats. J'en ai deux qui sont pas loin. J'espère qu'ils ne te feront pas éternuer.
Et non, bah écoute, tout va bien pour le moment. Les feux sont cachés. J'ai pas le plaisir de les voir, là.
Voilà, rapidement. Sinon, Sagittaire, ascendant poisson.
Important de parler d'astrologie pour se présenter.
Important pour moi.
Pourquoi ?
Important pour beaucoup. Non, mais c'est juste pour les personnes qui aiment l'astrologie, ça donne une petite grille de lecture supplémentaire.
Après, ils vont aller sur Internet pour voir les caractéristiques.
Ouais, les caractéristiques sont plutôt cool. J'aime bien mon thème astral. Mais du coup, tu es obligée de me dire quel est ton signe à toi.
Moi, je suis Verseau.
D'accord.
Ascendant Capricorne.
Ok.
Quel est ce « ok » ?
Non, rien.
Est-ce que tu as lu la BD de Liv Strömquist ?
Oui, mais ouais. Que j'ai fait dédicacer l'an dernier au Pop Woman Festival.
Oui,
j'étais contente.
C'était incroyable qu'elle soit là l'année
j'étais
dernière.
J'étais très heureuse de la rencontrer. Les tables rondes étaient très intéressantes. Alors, entre nous, je ne sais pas si Liv écoutera ton podcast, mais ce n'est pas ma préférée, celle-ci.
Je suis tout à fait d'accord.
Okay.
J'ai un gros coup de cœur pour Le Palais des Miroirs. Mm. Qui traite des dictats de la beauté. Ça, il est incroyable, celui-là.
Ouais.
Ouais. Je pense que sur l'astrologie, elle s'est plus amusée sur un sujet. Il est moins politique. Il traite plus de l'astrologie en général, avec les stéréotypes qu'on a, etc. Enfin, il est moins touché. Ouais.
Je trouve que la couverture est vraiment très belle. Enfin,
ouais.
Visuellement, c'est très réussi, mais vraiment, le propos m'a... Enfin, quand je dis que ce n'est pas mon préféré, presque je ne l'ai pas aimé, je crois.
Ok.
Voilà.
Yves, j'espère que ce n'est pas l'épisode que tu vas écouter.
Mais merci de me l'avoir dédicacé.
J'en suis très heureuse. Un regret. Tu es journaliste. Moi, j'ai fait des études d'histoire et d'audiovisuel. Et à la toute base, je voulais être journaliste. Et j'avais vraiment cette idée de pigiste dans un journal. Et je me souviens que j'avais rencontré une fille qui disait « Je pense que tu devrais te diriger vers un autre métier parce que moi, je fais trois boulots pour arriver vivre de journaliste. » Et je dis « Ah bon ? Oh non, moi, je pensais que ça allait être incroyable et que j'allais faire des enquêtes. » Je dis « Bah, sinon, tu vas finir à BFM. »« Ah oui, non, j'ai pas très envie. » Comment t'es arrivée à être journaliste ?
Bah déjà, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment un très beau métier.
Oui.
Mais souvent, j'entends « je voulais être journaliste » et puis après, je me suis dit que j'avais envie de gagner de l'argent. Donc, je ne suis pas devenue.
Je croyais que t'allais... Spoiler alert, tu ne gagnes pas assez d'argent ?
Non, bah écoute, déjà, en fait, ça, je pense que c'est assez subjectif.
Oui, bien sûr.
Ce qui est sûr, c'est que j'en gagne pas énormément et qu'à mes yeux, proportionnellement au travail que je fournis, j'en gagne pas
assez.
Et
autant que tu dédies à ça,
clairement.
Ouais.
Mais j'ai un toit sur la tête, je peux aller au restaurant et de temps en temps m'acheter des chaussures. Donc pour moi, je suis pas du tout à plaindre. Mmh. Et de toute façon, je ne troquerai pas ce métier contre un autre qui peut-être me ferait gagner le triple de ce que je gagne, mais qui ne m'épanouirait pas. Donc la question se pose pas. Mais en tout cas, bon, déjà, si je peux me permettre, avec ton podcast, tu joues quand même un peu la journaliste. Hein,
Ouais, j'écris aussi des articles pour un magazine de BD. Oui.
Mais, donc même tu l'es quand même.
Je le suis aujourd'hui, c'est vrai. Mais je suis pas passée par... et pareil en communication, je suis community manager depuis 5 ans, même responsable com, on va dire, pour certains de mes clients. Mais j'ai pas fait d'études. J'ai autodidacte. Et c'est vrai que c'est marrant, on en parlait il y a pas longtemps avec des amis, certaines personnes déjà te renvoient mais quelles études tu as fait pour en arriver là. J'en ai pas fait, je peux passer peut-être par une case facile ou pas, je sais pas trop. Et du coup, c'est pas que ça est arrivé comme ça, j'ai travaillé, mais ça m'était pas destiné. J'allais pas aux cases de journalisme ou à la communication de base, quoi.
Bon, après ça, de toute façon, c'est un réflexe un peu élitiste, évidemment, de demander quels sont tes diplômes, quelles études tu as faites. Mais le journalisme, justement, c'est quand même l'une des branches où il est possible d'y arriver sans avoir fait d'école. Même si clairement, là, en 2024, il y a tellement de personnes qui ont envie de faire ce métier, même si c'est l'un des plus détestés de France, que oui, moi, je peux que recommander de faire une formation. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent dans la construction... d'un article, d'un reportage télé, puis techniquement, la radio, la télévision, le web, ça s'apprend. Donc, c'est pas inutile de faire une formation. Moi, pour te répondre de façon assez brève, j'étais littéraire au lycée et je me suis rendu compte quand même assez tôt dans ma vie que ce que j'adorais, c'était l'écriture. Et puis, après, j'ai fait une classe prépa et quand même assez vite, je me suis dit que journaliste, ce serait le métier qui me permettrait d'écrire au maximum et de vivre plein d'aventures différentes et si possible, de travailler dans la culture. Donc, ma voie, en fait, je me la suis tracée assez simplement. Et pour le coup, j'ai un parcours universitaire, enfin, de classe prépa, puis de la Sorbonne, puis Erasmus, puis de nouveau la Sorbonne, et les concours d'entrée en école de journalisme. Et j'ai fait le CELSA, un master pro de journalisme, où j'étais en spécialité de télé. Donc moi, j'ai commencé en télévision. Et puis après, je me suis fait ma carrière et mon parcours qui... peut être un peu original parce que là, pour le coup, j'ai testé des choses différentes. Mais voilà, en tout cas, moi, ça a quand même été une vocation et je me sens tout à fait à ma place en tant que journaliste. Je trouve que c'est un très beau métier et qui, en plus, a l'avantage de signifier plein de choses différentes. Enfin, vraiment, être journaliste, on a l'impression qu'on sait ce que ça veut dire quand on le dit et puis on se fait un peu une image de Tintin reporter. Mais en fait, c'est plein de réalités différentes. Ouais. Et juste pour revenir sur ce que tu as dit sur BFM, je comprends la remarque, je comprends le regard que portent les gens sur BFM. Et moi, j'y suis passée. J'étais au service culture, mais je connais aussi plein de gens très bien et talentueux et intelligents qui y ont travaillé ou y travaillent toujours. Et il faut quand même se méfier quoi, quand on a l'impression que c'est une poubelle, parce qu'il y a des gens très sérieux qui ont un parcours tout à fait légitime, qui y travaillent. Donc voilà, après, ça peut tout à fait être une machine à broyer les gens, hein, ça, je te contredis pas. Mais c'est très formateur.
C'est aussi de la méconnaissance, parce que quand je dis ça, c'était l'histoire de... J'étais encore à la fac, donc c'était il y a 7 ans, 8 ans.
Oui.
Je connaissais pas vraiment le système qu'il y avait derrière BFM. Aujourd'hui, j'ai des amis qui postent là-bas et qui sont ultra compétents et qui essayent de montrer une information des fois qui est un peu sur d'autres chaînes. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est la vision qui en ressort. Oui. Pas forcément de BFM, mais de ces chaînes d'infos continues et de certaines informations qui tournent en rond. Et un manque aussi d'informations sur d'autres sujets.
Oui, bon, c'est un vaste sujet.
On peut... Complètement.
C'est pas la pire, disons, si tu vois ce que je veux dire.
Oui.
La chaîne juste après, là, oui, je te dirais, n'y travaille surtout pas. C'est news pour les personnes qui ne l'auront pas.
Et justement, quelle est ta vision du journalisme? Parce que j'ai l'impression que par rapport à ce que tu dis, différents types de journalisme qui est lié aussi à différents types de personnalités. Selon toi, comment tu définirais ton journalisme ?
Pour te définir le mien, je vais d'abord passer par autre chose, mais qui est que selon moi, les journalistes sont très très importants. Et ça me fend le cœur, en fait, quand je vois les sondages qui révèlent que vraiment, c'est une profession détestée par les gens. Je pense qu'il y a vraiment un gros malentendu, une méconnaissance de ce qu'est vraiment ce métier, qu'on confond beaucoup aujourd'hui avec les influenceurs, avec la communication, avec des émissions de divertissement. Là, je pense par exemple à Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna et sa clique, où on pense que tout ça, c'est du journalisme, ce sont des journalistes. Voilà, à mes yeux, c'est pas le cas. Enfin, on peut faire au cas par cas, hein, pour les chroniqueurs, mais globalement, j'appelle pas ça du tout du journalisme.
Le concept de l'émission n'est pas du journalisme.
Ouais, voilà. Mais informer de façon impartiale, objective, mener des enquêtes. Donc là, ben, plutôt, pour prendre un exemple populaire auprès du public, plutôt, tu vois, à la Élise Lucet, quoi, Cache Investigation, des émissions comme Complément d'enquête, enfin, vraiment qui révèlent des choses très importantes aux yeux du grand public. Pour moi, c'est indispensable. Et avoir confiance en la presse, c'est très, très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il faudrait vraiment que dans les écoles, on mette systématiquement en place de l'éducation aux médias et qu'on apprenne bien aux enfants. Je pense, dès l'école primaire, on pourrait faire quelques séances de façon bien plus systématique pour leur apprendre ce qu'est l'information, ce que sont des fake news, apprendre à se méfier de ce qu'ils voient sur Internet. Enfin, voilà. Et à ne pas confondre le journalisme et l'influence.
Aussi,
Travailler ses sources. Enfin, voilà, tout ça est très, très important. Et justement, dans un pays de liberté d'expression, de liberté d'information, il faut vraiment qu'on apprenne ça aux enfants et aussi qu'on se rende compte de la chance qu'on a de pouvoir informer librement, porter ces paroles-là. Ouais. Donc moi, j'ai un grand respect pour le travail journalistique. Cela étant dit, moi, j'ai commencé en faisant du journalisme assez traditionnel, en travaillant pour France 3, en faisant des reportages d'information générale, où on ne me demandait pas forcément un avis, une opinion. Et avec le temps, je me suis plus rapprochée de médias, là, comme Simone Média ou Avant les Glorieuses, qui sont des médias féministes et où on attend de moi que je porte une voix engagée. Mm-mm. Donc, où j'exprime bien plus mes valeurs personnelles. Donc ça, c'est-à-dire que j'y ai pris goût, si tu veux.
C'est mettre un peu toi aussi dans ton travail de journaliste, oui. Ce qui est le cas pour, j'imagine, la plupart des journalistes qui sont investis.
Ben oui et non.
Mettre de leur personne.
Ça, justement,
pas.
Les anglo-saxons ont beaucoup plus cette culture des formats incarnés, de la chronique, ouais. De l'édito.
Okay.
Ici, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais tout n'est pas... Enfin, de toute façon, l'objectivité, ça n'existe pas, mais tout n'est pas neutre, dans le sens où entre Le Figaro, l'Obs, Libé, on a bien compris qu'évidemment, ce sont des bords politiques différents. Je ne te parle même pas de torchons comme Valeurs Actuelles. Donc évidemment qu'on peut travailler pour un journal qui appartient, qui se range de tel ou tel côté politique. Mais là, c'est plutôt une question de valeur, comme il existe aujourd'hui des médias écologistes. Et donc, c'est sûr que là, depuis 3-4 ans, je travaille davantage avec des médias ouvertement féministes et c'est assez confortable parce qu'avant, évidemment, parfois je traitais des choses qui aujourd'hui, en fait, enfin, dont je me demande aujourd'hui si je saurais les traiter sans me mettre en colère. En fait. Tu vois, c'est ça. Donc, et puis en plus, je suis devenue. En tout cas, je suis officiellement autrice puisque j'ai publié des livres. Donc, ma façon d'exercer le journalisme a quand même évolué parce que j'incarne beaucoup ce que j'écris. Mm-mm. Mais pour moi, la démarche reste la même, à savoir, je recherche de l'information, je source de l'information, je rencontre des gens, je les interviewe, je rapporte des faits. Donc tout ça, ça n'a pas changé. Ma base de journaliste est toujours là.
Et avant de parler de ton travail d'autrice, est-ce que tu considères que tu es militante féministe ?
Non, moi je ne me définis pas comme une militante. Justement, je le rappelle assez souvent. Et puis d'ailleurs, je ne me présente pas comme journaliste féministe.
Ouais.
Et... J'autorise
c'est
les gens.
C'est important pour toi de bien discerner ça.
J'autorise en fait évidemment les gens à me présenter comme ça. Enfin, souvent dans des vidéos ou dans des articles, on m'a présenté comme ça. Évidemment, je m'offusque pas parce que c'est vrai. Mais le féminisme, c'est pas une spécialité dans le journalisme. Pour moi, c'est une question de valeur. Je suis journaliste culture et société. Parfois, je peux quand même. Écrire des choses où on se dit pas « Waouh, quelle grosse féministe celle-là, elle est insupportable avec son féminisme !» Enfin, voilà, féministe, pour moi, on peut exercer absolument n'importe quel métier, tu vois, et on dirait pas boulangère féministe, infirmière féministe, non. Donc journaliste, pour moi, ça n'a pas besoin d'être précisé. Et donc, le militantisme, pour moi, c'est autre chose. Ça s'exprime autrement. Et honnêtement, j'ai pas de problème à dire que je suis pas la première dans les cortèges de manifestations. J'ai jamais trop aimé manifester, pour des raisons perso, mais tu vois, d'agoraphobie. Enfin, j'ai du mal, en fait, avec la foule. Donc, je suis pas du tout une grande manifestante. Le 25 novembre, la plupart du temps, là, j'y suis allée ces dernières années. Mais ça va pas s'exprimer comme ça. Je fais pas de collage. Enfin, les façons, dont je pourrais militer, être militante féministe, je le fais pas. Mais en revanche, je considère que je m'engage à travers mon travail. Oui. Ce que je produis va dans un sens de défense des luttes féministes. Oui, mais je le fais en tant que journaliste. Après, d'ailleurs, souvent, on me dit « Ah, mais toi, t'es une militante, t'es très militante. » Bon, voilà, pour moi, c'est différent. Parce qu'en plus...
Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Après, tu vois, tout à l'heure, on parlait de sur tes réseaux de ce qu'il en ressort, en tout cas de ma perception, de par tes travaux, de par tes livres. Et c'est peut-être aussi que c'est facile aujourd'hui d'utiliser le mot militantisme. Enfin, il arrive beaucoup à nos oreilles sur le militantisme écologique, le militantisme féminisme. Et pour moi, il y a une sorte de... Oui, tu milites pour la cause des femmes avec les sujets que tu abordes et tu les défends avec tes mots, avec ton travail de journalisme, avec tes livres. Mais c'est peut-être pas le bon terme à utiliser.
Mais en fait, je te dis, c'est pas un terme que j'interdis aux gens si on considère que je le suis. Mais moi, je me définis pas comme ça. Parce que ça me tient à cœur. Enfin, parce que ça me tient à cœur, en fait, de garder mon étiquette de journaliste.
Ok.
Et parce que, en tant que journaliste,
Oublié, on l'utilise.
Non, il
n'est
pas oublié, mais il est confondu. Et donc, justement, moi, je travaille d'une façon qui répond à des codes. Enfin, tu vois, j'ai la carte de presse. Justement, je te parlais de l'objectivité. En fait, c'est-à-dire que les personnes qui suivent, mais quelques, pas fans, mais des personnes qui suivent vraiment tout ce que je fais, j'en ai quelques-unes, dont mes parents. Mais
évidemment.
Non, mais je pense que ça se sent très bien, notamment quand j'interview des gens, avec le podcast, par exemple, que je tiens pour Simone, qui s'appelle Le Kawa. Tu vois, récemment, là, j'ai interviewé Tiffendé, qui est la créatrice de la Féminine Universelle. Et ben, dans notre interview, je l'apprécie beaucoup, Tiffen. Enfin, c'est une copine et je l'admire beaucoup en tant que femme, en tant qu'activiste. Mais justement, dans cette interview, c'était pas une posture de copine à copine. Ah, c'est trop bien ce que tu fais, Tiffen. Non, je l'ai vraiment abordée en me disant, il faut aussi que je pose des questions qui dérangent, que je me fasse l'avocat du diable. Tu vois, par exemple, à un moment, je lui ai dit, mais c'est pas un peu agressif quand même ce que tu fais. Enfin, tu vois, et ça, pour moi, c'est un taf de journaliste. Ouais.
Tu mets ta casquette de journaliste.
Ouais, je dois pas... Ouais. En gros, c'est pas péjoratif pour elle, mais je dois pas me laisser endormir. Même si la personne, je l'aime en face. Pareil, tu vois, si j'interview une artiste, un réalisateur ou quoi, mais qui a des choses problématiques à aborder, il faut que je les aborde. En fait, c'est mon travail.
Ouais.
Et de la même façon, l'an dernier, pour l'un des épisodes du podcast, j'ai reçu deux militants et militantes anti-IVG. Si j'avais été vraiment dans une posture de militante, on se serait engueulé. Enfin, engueulé, le mot est faible. On se serait mis sur la tronche. J'aurais pas arrêté de leur rentrer dedans, de leur dire « mais vous êtes complètement idiot, j'en sais rien ». Non, je suis restée super calme, professionnelle. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié parce que ça a été relevé. J'ai reçu plein de messages de soutien en disant « ça a dû être dur de garder cette posture-là ». Donc voilà, en fait, pour moi, la différence, elle est là.
Oui.
C'est-à-dire que mon métier m'oblige à garder un certain calme et à être la plus possible, objective dans la façon dont j'interroge les gens. Parfois,
et dont tu abordes les sujets.
Ouais. J'ai interviewé souvent, et d'ailleurs, ça a commencé assez tôt chez France 3. Là, en te parlant, j'ai le souvenir d'un reportage que j'ai fait. Je me rappelle pas du tout du nom. Un petit village français qui manifestait. Je sais pas, il y avait 30 personnes qui manifestaient parce qu'ils refusaient que l'un des gymnases soit occupé par des migrants. Et ça puait le racisme. Enfin, vraiment, c'était affreux.
Ouais.
Mais est-ce que je leur ai dit « bande de fachos » et tout ? Bah non, je leur tendais mon micro. Alors, qu'est-ce qui vous dérange ? Alors, intérieurement, tu chiales, parfois.
Ouais.
Mais voilà, c'était ça mon travail. Et c'est d'ailleurs l'un des clichés des concours de journalisme où, je sais pas si ça se fait encore, mais tu vois, l'une des questions que tu pouvais avoir, c'était si demain je vous envoie interviewer Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, est-ce que vous y allez? Qu'est-ce que vous faites? Et évidemment qu'on attend de toi que tu dises, bah oui, j'y vais, je pose les questions. Oui. Et que si tu dis, enfin, j'imagine que si tu dis, ah non, c'est mort, c'est une sale facho, jamais de la vie, je suis pas sûre que tu sois prise dans l'école. Parce oui, c'est que, ça. Justement, c'est pas là qu'on t'attend.
Et du coup, si on te posait la question,
bah, oui.
Si on te propose d'interviewer Marine Le Pen, tu le ferais?
Bah oui, bien sûr, honnêtement. Hein. Enfin, et puis d'ailleurs, moi, je suis la première à proposer des sujets qui sont pas forcément acceptés, mais où je me confronte à des gens qui sont très différents de moi. C'était d'ailleurs la base de mon podcast, puisque j'ai par exemple fait une interview avec un masculiniste, une interview avec un coach en séduction. C'est dur hein, de garder le sang-froid.
Est-ce qu'il y a l'idée aussi de, au fur et à mesure de la discussion, aussi de toi, de relever des points et de transmettre l'inverse de ce qu'ils pensent?
Tu vois, de convaincre.
Pas de convaincre, mais de plutôt dans l'idée de débattre et de discuter. De dire, ok, toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Et en lui disant, tu sèmes une graine.
Ah oui.
Au moins, il l'entend ou elle l'entend, tu vois. Et ça peut être intéressant. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, débattre avec des personnes qui n'ont pas du tout le même avis politique que moi. Ou les valeurs encore, ça peut être un peu plus compliqué, en tout cas dans le cercle proche, mais de se dire, bon, bah d'accord, je ne peux pas être avec que des personnes de gauche. Et c'est intéressant aussi que... Mais pourquoi ces personnes-là sont de droite? Est-ce que c'est lié à leur famille? Est-ce que c'est lié... à leur milieu social, à leur milieu de travail, et au moins elles ont entendu ce que tu peux penser, quoi.
Bah moi, j'accorde une grande, grande importance au débat. Ça, c'est sûr et certain. Au débat, à la nuance, à la liberté d'être nuancé. Et puis là, tu as dit gauche-droite. Bon, tu l'auras remarqué. Et d'ailleurs, enfin, justement, normalement, en tant que journaliste, tu n'es pas censé indiquer ton bord politique ou dire pour qui tu votes. Ça aussi, ça fait quand même partie du règlement. Même si bon, je pense que c'est assez obvious. mais voilà, ça fait aussi partie des points, tu vois.
Tu te poses en neutralité en fait.
Au maximum. En neutralité, mais voilà. Enfin voilà, on l'aura compris. Je radote, mais cette casquette de journaliste, elle est importante et pour moi, elle me situe ailleurs que celle de militante.
Non, c'est hyper intéressant. Du coup, les bouquins. Comment on arrive à écrire 5 livres depuis 2021 ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer là à l'écriture d'un livre qui, du coup, diffère de ta casquette de journaliste ? Enfin, diffère, c'est pas le même type de support, quoi.
Bah déjà, écoute, je suis obligée de passer par le premier qui était un livre sur Serge Gainsbourg. Je sais pas si tu... Elle me déteste.
Non, pas du tout.
Qui s'appelle En relisant Gainsbourg et qui est un livre sur l'influence de la littérature sur la vie et l'œuvre de Gainsbourg, qui est donc, pour résumer, un livre pro-Gainsbourg, puisque la conclusion, c'est quel grand poète, ce monsieur Gainsbourg. Parce que quand j'étais en études de lettres, j'ai consacré mon mémoire de fin d'études à Gainsbourg et au 19e siècle. Ensuite, en 2021, ça allait être les 30 ans de la disparition de Gainsbourg. Et un peu partout où je suis passée, quand je parlais du travail que j'avais fait, on me saluait en disant « purée, c'est hyper précieux, c'est quelque chose qui n'a jamais été creusé de cette façon ». Donc en fait, j'ai proposé mon manuscrit à des maisons d'édition. Et ça s'est fait.
Okay.
Et il est sorti pour 2021, pour la disparition de Serge Gainsbourg. Et j'ai eu quand même un très bel écho médiatique avec ce livre, qui est donc sous format d'essai. J'avais repris mon travail et je l'ai réadapté. Voilà. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Enfin, après, tu peux évidemment me poser toutes les questions que tu veux sur ça. Mais j'ai évolué. Je veux dire, c'est drôle d'entrer par Serge Gainsbourg, qui est quand même assez détesté globalement par les féministes. Mais en tout cas, je m'en cache pas du tout. Et au contraire, je trouve ça très intéressant de regarder mon évolution ensuite.
Ouais.
Mais pour répondre à ta question vraiment précise sur le fait d'écrire. Donc moi, je suis entrée comme ça dans l'édition, en fait, avec un travail, avec une matière qui datait de... presque 10 ans, enfin 8 ans. Donc, à la fois, je me disais, je publie un livre et j'en suis vraiment heureuse parce que c'était un peu mon objectif. Je m'étais dit, un livre à 30 ans, ce serait mon rêve. Mais en même temps, j'avais pas la sensation de venir de l'écrire. Enfin, tu vois, il y avait quand même une espèce d'illégitimité parce que ça datait d'avant. Bref.
Et que t'étais pas dans le même processus d'écriture que là avec les autres productions
que
t'avais pu
faire. J'ai un peu combattu
faire,
un syndrome de l'impostrice à l'époque. Ouais. Mais alors après, quand j'ai vu que je m'en sortais bien pendant la promo et qu'en fait j'étais légitime, ça m'est passé. Mais c'est vrai qu'assez vite, je me suis dit bon bah j'aimerais bien avoir l'occasion d'en écrire un là tout de suite, pas il y a 7-8 ans, pas un travail de recherche universitaire. Oui. Et finalement, mon deuxième bouquin, c'est une éditrice qui est venue me proposer qu'on travaille ensemble. Donc c'était et si on parlait vraiment de sexe. Donc ce livre-là, c'était une commande. Enfin, on l'a imaginé ensemble, mais en tout cas, elle est venue me proposer le projet. Mm-hmm. Donc ça, j'étais vraiment super contente. Et ensuite, le troisième, ça a été Toute pour la musique, que là, j'avais déjà dans mes tiroirs, qui est une histoire féministe de la musique. Voilà. Et le quatrième, c'était Pêche au canard, décryptage d'une vie amoureuse tumultueuse, où là, c'est différent parce que ce sont des chroniques d'autofiction inspirées de ma vie amoureuse. Donc, c'était des formats différents. Mais en tout cas, les premiers, pour moi, ce sont des livres de journaliste. C'est-à-dire que je fais mon taf de journaliste, sauf que c'est sur un long format.
Ouais.
Mais, mais ma démarche, elle est la même. Ouais. Et après, Pêche au canard, là, c'était quand même différent. C'est bien plus un taf d'autrice seulement. Bien qu'il y ait dans ce bouquin-là les analyses de ma psy, de ma vraie psychanalyste, qui décrypte justement mes histoires. Et ça, je me dis, c'était un réflexe de journaliste de vouloir qu'il y ait des décryptages en me disant, il faut que ce soit utile au lecteur.
Comme des petites annotations, ou quand tu cites des sources.
Ouais, c'est ça.
Je pense à le prochain livre que tu vas sortir. En fait, c'est ça, c'est des petites citations d'autres personnes. Ouais.
Et voilà, bref. Et donc là, le prochain, c'est un peu étrange. Enfin, c'est pas que c'est un peu étrange, mais pour moi, c'est... Je me rends compte que je me suis cachée derrière rien, dans le sens où mes derniers bouquins étaient illustrés, plus ou moins. Mais en tout cas, c'était des formats assez ludiques, malgré tout, avec des images, avec plein de couleurs. Et là, celui qui va sortir, c'est un essai. Donc, c'est vraiment que mon texte. Donc, c'est que moi. En fait, je sais pas, je me cache derrière rien d'autre que
mon texte. T'as l'impression, avec celui-ci, donc Désirer la violence, de te mettre plus à nu, de te révéler en tant... Enfin, t'es autrice, et t'es autrice depuis le premier, mais de passer un cap.
Ouais, moi, je le vis comme ça. Mais en fait, je fais toujours tout avec sérieux. Mais là, pour moi, je ne sais même pas s'il faudrait le dire, tu vois. Mais pour moi, c'est mon premier livre très sérieux. Parce que déjà, le sujet est infiniment sérieux. On parle de la violence, donc c'est pas drôle du tout. Mais c'est que là, j'ai vraiment fait un travail d'un essai, en fait. Donc... C'est très, très, très approfondi.
Et puis on parle de la violence et puis on parle de la pop culture. Mm. Là, tu t'attaches, on va en parler un peu plus en détail. Donc, le principe du livre, c'est tu décryptes que l'amour est sacrificiel dans la pop culture. Et la pop culture, elle appartient à tout le monde. Enfin, Harry Potter, c'est dans les foyers de nombreuses personnes. Le film Grise. Friends, t'es sur les Disney, t'es sur des séries, t'es sur des films cultes et tu commences le livre avec Kill Bill. Quentin Tarantino, on a l'impression que des fois, on peut pas toucher à certains réalisateurs, certains films. Comment tu t'es dit, ok, je vais cibler ça et je sais que je vais cibler ça, mais je vais cibler des foyers, des personnes, des sensibilités.
Bah justement, en partant de moi, parce que cet essai, il est quand même incarné.
Oui.
Et justement, évidemment, là, je ne parle pas de Serge Gainsbourg parce qu'il s'agit de cinéma et de séries, de fiction audiovisuelle. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis que pour moi, il y a une vraie logique dans mon parcours. C'est que c'est l'enquête d'une fille, enfin d'une femme, qui se rend compte qu'elle a aimé, admiré, été fascinée par des choses violentes et donc des hommes problématiques. Mais problématique, c'est le mot gentil pour dire des agresseurs ou des violeurs. Et qui se rend compte aussi que tous ces goûts culturels sont complètement contaminés par la violence. Là, je spoil un chouïa, mais moi, Kill Bill, c'était vraiment mon film de référence. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote avec toi, l'interview que j'avais faite pour le Pop Woman Festival l'an dernier, où on me demandait mon héroïne préférée ou quoi, je disais Béatrix Kiddo dans Kill Bill, parce que pour moi, c'était mon héroïne féministe par-dessus tout. Donc, en fait, c'est vraiment un livre où je me remets moi-même en question et j'essaye de comprendre pourquoi pourquoi j'ai été autant fascinée par toutes ces œuvres et donc tous ces réalisateurs et donc aussi ben, auteurs, compositeurs, interprètes, tu vois, même si là, je ne parle pas de Gainsbourg dedans. Mais donc, ça parle vraiment de ça. Et justement, mon avant-dernier livre, Pêche au canard, c'était un décryptage de ma vie amoureuse tumultueuse. Mais en fait, c'est le prolongement. Je ne savais pas encore que j'allais écrire Désirer la violence. Mais en fait, c'est le prolongement de ce travail-là. Une fois que tu as fait ta psychanalyse, que tu es passé par plein de thérapies différentes, que tu as compris tes névroses familiales, que tu te dis, bon, ok, si je suis allée vers tel mec, c'est à cause de mon père, des choses comme ça. Oui, d'accord, mais c'est pas suffisant. Ça vient aussi d'autres choses. Et donc là, c'est absolument ça. C'est, je suis cinéphile depuis toute petite. J'ai été biberonnée à un tas d'œuvres. Donc, qu'est-ce qu'elles m'ont appris ? Voilà, c'est vraiment ça le propos de Désirer la violence.
À quel moment ils t'ont gênée ? À quel moment tu as eu, comme on en parlait au Pop Woman Festival avec Ovidie, cette machine dans la tête à déconstruire qui pop-up et qui, aujourd'hui, est automatique. Et en fait, je trouve que le bouquin arrive un très bon moment, un moment opportun, où, après, j'espère pour la plupart des personnes, mais c'est vraiment mon cas, où ça fait quasiment un an, où il y a des films de mon enfance. Et moi, mon enfance, elle a été accompagnée avec mon père et voilà, j'adore mon père, mais c'est très dur parce que j'ai l'impression de... Bah, je peux plus supporter ces films-là parce qu'il y a des codes, il y a des rouages masculinistes qui sont affreux. Mais il y a cette idée de faire un peu le deuil d'une partie de ton enfance. Je sais pas si tu vois ce que...
Ah bah, je vois tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est quand même ce que je raconte à la fin, en conclusion de mon livre. En fait, je te dis, c'est très personnel. C'est pas pour le plaisir de ramener à moi, parce que, sans citer le nom de mes amis, je veux dire, j'ai d'autres personnes de mon entourage qui sont confrontées à la même chose. C'est-à-dire que là, moi, j'ai 33 ans, je suis célibataire, et je considère que c'est triste, hein, mais que j'ai jamais connu une histoire fonctionnelle et saine avec les hommes. Je suis hétéro. Et en fait, c'est qu'à un moment, tu te dis, putain, mais pourquoi je suis attirée... Désolée, je suis vulgaire. Pourquoi je suis attirée par les connards ? Pourquoi je suis attirée, à minima, par les connards, et au maximum, par des mecs violents, des mecs virils, des mecs qui incarnent tout ce que je combats, justement, en tant que féministe. Mais sauf que là, tu regardes, justement, les films avec lesquels j'ai grandi, et je me dis pourquoi, quand je regarde Gossip Girl, je suis fan de Chuck Bass, alors que c'est le pire. C'est quand même le pire des personnages. Pourquoi, quand je regarde Bridget Jones, je craque pour Daniel Cleaver et pas pour Mark Darcy, donc Hugh Grant, et pas Colin Firth, qui est un connard avec Bridget. Pourquoi, systématiquement, dans toutes les séries, dans tous les films, je craque pour le connard, pour le méchant, pour celui qui fait souffrir. Et donc, de façon plus large, pourquoi est-ce qu'on fantasme sur Christian Grey ? Pourquoi est-ce que quand on regarde Twilight, on trouve tout ça très romantique, alors que Bella, en fait, bon, c'est un livre à l'origine, mais Bella meurt pour lui.
Oui.
Idem pour Roméo et Juliette, j'en parle dans l'introduction. Oui. Je trouve ça trop romantique. La version de Baz Luhrmann, vraiment, c'est mon adolescence entière passée à regarder ça, parce qu'en plus, Roméo est incarné par Leonardo DiCaprio. Et pour moi, c'était OK. Non mais attends, si j'ai Leonardo DiCaprio qui m'aime et que c'est aussi romantique, ils se sont vus deux fois et demi, hein. Ok, je peux me flinguer, parce que à quoi bon vivre si c'est sans lui.
Qui se sacrifie, bah, la petite sirène, qui perd...
Bah, la petite sirène, en plus, moi j'en ai beaucoup parlé pour Toute pour la musique, sur la symbolique de renoncer à sa voix pour un homme. Et donc, en fait, une fois que tu fais la liste, mais qui est presque infinie, hein, ouais, de toutes les fictions avec lesquelles t'as grandi, ou à chaque fois t'as fait le choix, mais alors consciemment ou pas, mais où en tout cas, ça t'a donné envie de désirer la mauvaise personne, bah tu te dis, attends, c'est
tout
normal.
S'explique.
C'est normal, en fait, qu'à 30 piges, ouais, quand j'ai le choix entre un bad boy et un mec gentil, je trouve le mec gentil hyper ennuyeux. Parce qu'en fait, tout m'a indiqué qu'il était ennuyeux. On ne m'a pas appris à érotiser la gentillesse.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et tu le mentionnes notamment avec Kill Bill, ou même Bridget Jones, là on parle de films où le personnage principal est une femme. Et est considérée comme l'héroïne. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a peut-être une facilité à ça dans les dernières productions, à dire, mais regardez, c'est féministe, le personnage principal, bah, c'est une femme, guess what, puis un peu, elle combat. Mais en fait, non, parce que même comme ça, ça ne fonctionne pas.
Bah oui, c'est un traquenard, et de toute façon, un film pourrait être féministe avec un héros masculin en personnage principal, tu vois. Enfin, en fait, ça veut rien dire, c'est de la poudre aux yeux. Et justement, ça a été très dur pour moi d'ouvrir les yeux au fil du temps sur Kill Bill. Et là, tu vois, je te reçois chez moi. Bon, alors là, je spoil complètement. Je ne sais pas si c'était très stratégique, la fin de mon livre. Mais en gros, là, juste ici, à côté de nous, j'avais une affiche de Kill Bill que j'avais installée justement quand j'ai emménagé dans cet appart après une relation violente. J'avais mis cette affiche qui datait de mon adolescence parce qu'elle me donnait de la force. Parce que je me disais, allez, sois Béatrix et tout.
Prends ta lame et...
Bah ouais, symboliquement, les amis, symboliquement. Et tu vois, elle n'y est plus. En fait, je l'ai virée. Il y a un moment, au bout d'un an, plus d'un an, à bosser sur tout ça. Parce que bon, je vous laisse lire le livre et vous informer sur la question. Mais ça va au-delà du film. C'est Tarantino, c'est Harvey Weinstein, c'est Uma Thurman, victime de violence.
Du cinéma américain.
Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, tu n'éprouves plus que du dégoût. Et enfin, moi, j'arrive plus du tout à la voir comme une héroïne féministe.
Ouais.
Donc ouais, c'est dur. Mais évidemment que c'est dur. Mais même les Disney, en fait, c'est super dur de se rendre compte de l'arnaque monumentale qu'il y a derrière tout ça et qui ne profite qu'aux hommes.
Ouais.
Mais attention, quand je te dis ça, qui profite aux hommes, mais qui leur fait aussi du mal. Parce que dans mon bouquin, j'explique comment les hommes aussi, enfin, les garçons pâtissent de ces modèles-là.
Oui, oui.
Parce qu'on peut pas, en fait, on peut pas faire que les accuser. C'est-à-dire que, nous, on nous apprend à érotiser les bad boys et à ne pas aimer les mecs gentils. Forcément, quand tu es en face, que t'es un ado, tu te rends compte que le mec gentil, l'option mec gentil, ça marche pas avec les filles parce que toi aussi, on t'enseigne ça.
Donc
tu veux devenir
méchant.
Un bad boy.
Ouais.
Donc en fait, on peut pas non plus les condamner. Ouais, on se construit tous avec les mêmes modèles.
Mm-hmm.
Le problème, c'est qu'on se construit en parallèle. Mais le résultat final, c'est qu'on se fait du mal les uns les autres. Donc voilà, c'est ce que je dis au début. C'est pas du tout un bouquin contre les hommes, parce que au contraire, j'inclus vraiment les hommes dans la problématique. Mais globalement, les responsables, ce sont des hommes.
Oui, c'est ça. Ouais.
Enfin, c'est pas globalement, c'est les responsables. Enfin, le responsable, c'est le patriarcat, donc un système d'hommes.
Ça se découpe en plusieurs chapitres, et notamment, tu mentionnes la femme dans le frigo. Et je voulais juste rajouter une petite chose sur ça, parce que du coup, c'est tiré des comics.
Ouais.
Et j'étais vraiment trop contente que tu le mentionnes, parce que quand j'en parle encore dans les podcasts ou dans des live Twitch, y a des personnes qui ne connaissent pas. Et c'est une scénariste, c'est Gail Simone, qui a posé ce terme-là. Et moi, ça m'avait, ça a été un choc en fait quand j'ai vu ça. Et c'est vraiment tiré d'un comics précis qui est Green Lantern. Et en fait, donc l'histoire se passe et il a une petite amie. Alors elle est même pas nommée. Enfin, je me souviens même plus de son nom. Et il la retrouve dans le frigo. Et l'histoire découle avec. Et en fait, il y a énormément de comics qui ont suivi, notamment un comics un peu culte dans l'univers de Batman qui est Killing Joke, où le Joker attaque Batgirl lorsqu'elle est chez elle. Donc elle reçoit un coup à la hanche et donc en fait il fait juste ça pour perturber son père et donc Batman, et il prend des photos d'elle nue et il les met face à son père. Et en plus, le scénariste, alors je sais plus où ça en est, mais n'a jamais vraiment dit, parce que bon, on voit que le Joker a du coup des photos nues de Batgirl, donc qu'est-ce qu'il a fait avec Batgirl, et il dit pas vraiment s'il y a eu viol ou pas, quoi. Je pense que maintenant ça a été plutôt acté qu'une de ces versions il y avait le viol, mais qu'elle est pas forcément officielle, quoi. Donc je trouvais ça vraiment cool que tu marques ça. Est-ce que toi, il y a un des chapitre ou un des thèmes qui t'a un peu plus marqué au niveau de l'écriture?
Wow, la question, elle est... C'est impossible de répondre à ta question. Tout m'a marqué.
Ouais.
Sincèrement.
Il y en a un qui était un peu plus difficile à écrire par rapport aux recherches.
La partie 3 a été douloureuse à écrire. Je n'en pouvais plus de cette partie 3.
Ouais.
La partie 3, c'est pas très fun, hein, mais violence conjugale, violence sexuelle et féminicide. Voilà. C'est parce que la première partie, c'est globalement la banalisation des violences par l'humour. C'est plutôt dans le domaine de la drague. La deuxième, c'est la violence psychologique. En fait, tout est grave. Hein, et je le dis bien, je veux pas hiérarchiser. Mais la troisième partie, qui est la plus longue, là, c'était vraiment... En fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt dans ma façon d'écrire, parce que je considère que dans les deux premières parties, j'ai quand même réussi à exprimer ma plume qui aime bien mettre de l'humour. Tu vois, faire des petits jeux de mots, faire quand même un peu des vannes par-ci par-là sur les héros. Dans la troisième partie, c'était impossible. C'est impossible. C'est bien trop sérieux et grave.
Ouais.
pour que j'y mette quoi que ce soit. Donc, c'était dur parce que je pouvais jamais, en fait, me réfugier dans... Moi, c'est ma stratégie de me réfugier dans l'humour.
De mettre des petites notes un peu de blagues.
Donc, je pouvais pas. Protéger, donc, c'était dur. Et même dans les sous-titres, il y a quelques petites astuces, tu vois, quelques petits jeux de mots, mais il n'y a rien de drôle. Mm. Donc, c'était dur pour moi de me confronter à ça. C'est aussi pour ça que je te dis mon premier livre sérieux. C'est qu'à chaque fois, moi, j'arrive... À mettre de l'humour. C'est vraiment ma parade dans la vie. Et là, c'était pas possible.
Oui.
Mais donc, c'était intéressant à faire. Mais qu'est-ce que ça a été dur à écrire ? J'en pouvais plus. Puis en plus, pour le coup, dans les premières parties, c'est un peu la violence là où on l'attend pas ou là où on la voit pas.
Donc, un peu cachée, un peu mystérieuse.
Donc, je regardais, par exemple, Hercule, la version Disney, Grease, La fièvre du samedi soir.
Shrek aussi, Shrek. Que tu parles.
Ouais. Je suis fan de Shrek.
Mais moi aussi.
Mais après, Shrek, justement, je dis que c'est trop bien.
Oui, mais parce que Fiona est une princesse à part entière.
Ouais. Mais justement, le discours...
On n'en parle pas assez, il n'est pas autant... je trouve qu'on en parle... Shrek n'est pas assez médiatisé.
C'est un chef-d'œuvre quand même, tu vois. Pense que c'est reconnu. Mais justement, ils ont été, pas précurseurs, mais hyper malins de parodier, de ridiculiser en fait les stéréotypes du conte de fées, et donc notamment de la princesse passive dans sa tour qui attend d'être embrassée par un inconnu, quoi. La Shrek, c'est hors de question pour lui qu'il embrasse Fiona, il n'en a rien à faire. Donc bref, ça, c'est génial. Mais les films que j'ai dû regarder ou revoir et analyser dans la troisième partie... Bah, c'est vraiment rien de drôle. C'est que des films violents directement en première lecture, avec des violences sexuelles. Donc, ça a été éprouvant.
Je me faisais la réflexion, notamment, tu mentionnes Grease, qui est aussi problématique, mais qui est aussi culte. Hein. Moi, je suis fan de comédie musicale, donc je l'ai regardé plus de 10 500 fois. Mon mec peut l'approuver, il ne m'aime plus qu'à cause de ça. Et... Quel regard t'as quand
Je te dis moi aussi, mais non, moi, mon mec ne peut pas l'approuver.
Quel regard tu as le fait qu'on continue aujourd'hui de produire des contenus liés à ces films-là et qu'ils ne soient pas forcément modifiés. Tu vois, il y a de nouvelles représentations sur scène, des pièces de théâtre. Et je m'étais dit des fois, c'est dommage, peut-être qu'à l'écriture, on peut changer des choses. Alors, ça a été fait sur une pièce Cendrillon.
Ça, c'est une question super intéressante, mais là-dessus, je suis assez tranchée, dans le sens où moi, alors, je suis pas du tout pour la cancel culture.
Oui.
Pas du tout. Et je ne suis pas pour la réécriture des œuvres. Vraiment. C'est-à-dire que moi, je trouve que tout ce qu'on a à faire, c'est de contextualiser l'œuvre. Je trouve ça bien sur la plateforme Disney+, qui a un message d'avertissement avant certains Disney qui disent qu'il y a des biais racistes, sexistes, avant le film. Mais j'ai pas envie qu'on réécrive les Aristochats. Enfin, en fait, je pense aux Aristochats parce que mon chat s'appelle Toulouse et que les Aristochats, c'est vraiment très important pour moi. Et mon autre chat s'appelle Berlioz, big up à lui. Mais voilà, par exemple, le personnage siamois, c'est vraiment un cliché raciste envers les Asiatiques. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas d'intérêt là, de réécrire les Aristochats ou de censurer des scènes. Créons de nouvelles œuvres qui repartent sur de meilleures bases. Et pour Grease, en fait, si tu veux, c'est comme pour Phédo. Enfin, en fait, comme pour tout le théâtre, ça, c'est même pas énormément. La plupart des choses qui sont représentées au théâtre ou en spectacle, elles datent. J'ai revu il n'y a pas longtemps Notre-Dame de Paris. Oh, mais au secours. Bon, après, ça, c'est Victor Hugo.
Oui.
Mais au secours, là, en 2024, je trouvais que ça... Oh, c'était ringard. Je sais pas, vraiment, ça puait, quoi.
Après, il n'y avait pas l'affaire, quoi.
Ouais.
Ça pose des questions de façon sur les nouvelles adaptations de Disney en live action. Et c'est vraiment, j'en débat souvent avec mon copain, de pourquoi on n'arrive pas à créer de nouvelles choses et on va réadapter du coup des vieux films. Mais comme tu le dis là, et c'est ça qui est bien dans ce bouquin là, c'est que mais en fait, ces vieux films, ces vieilles séries, ça marche pas, quoi.
Mais en fait, on veut
refaire Friends encore aujourd'hui, c'est
fou. Ça capitalise sur la nostalgie. Mais Grease, en fait, pour te prendre l'exemple de Grease, moi, ce que je raconte dans le livre, ça concerne... Enfin, je raconte plusieurs choses, mais je m'arrête surtout sur la chanson Summer Nights, Summer Nights, j'ai tout donné. et donc, vous savez, tell me more, na, 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 na. Je wow, regretterais absolument d'avoir fait ça. Attends, j'ai un piano à côté, est-ce que tu veux que je te la chante pour de vrai?
Oui.
Non, et donc, en fait, du côté des filles, bah, évidemment, c'est hyper romantique, il a fait ci, il a fait ça, il est trop craquant. Et du côté de John Travolta, quand il raconte, il y a l'un des garçons qui lui dit, tell me more, did she put up a fight? Et donc, ça veut dire, est-ce qu'elle s'est débattue? Et en fait, déjà, quand t'es petite, moi, j'ai grandi avec, je parlais pas encore couramment anglais, tu vois.
Mais pour moi, cette phrase, je l'ai jamais entendue.
Enfin, clairement, je te disais « Nina ran in around oh. » comme je viens de te
toi
faire.
Toi aussi, tu
quoi.
Fais du yaourt.
Voilà. Et en fait, c'est « Did she put up a fight ?» Est-ce qu'elle s'est débattue ? Et en fait, tu te dis « Hein ?» Mais comment ça? Comment ça est-ce qu'elle s'est débattue? C'est complètement étrange de dire ça. Tu dis pas ça. Tu dis, est-ce qu'elle a aimé ton câlin? Est-ce que c'était bien de l'embrasser? Et donc, ça veut dire que c'est tellement OK, ancré dans l'imaginaire que la meuf peut se débattre quand t'essayes de la pécho, que dans une chanson connue mondialement, on dit est-ce qu'elle s'est débattue.
Ouais.
Donc là, par exemple, sur ce point-là, je trouve que si on joue... là, c'est à Paris, donc si c'est une adaptation française, je ne sais pas trop comment c'est traduit, mais en tout cas, actuellement, à Broadway ou quoi, s'ils jouent Grease, et ça se trouve, c'est le cas. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je vérifie ça. Bon, ça ne coûte rien de changer cette phrase. Je pense vraiment, pense vraiment qu'on peut agir.
Et du coup, dans ce cas-là, il faut le faire. Enfin...
Bah, là, oui, je trouve que tu joues aujourd'hui, ça ne tient qu'à ça. Là, dans la chanson, tu peux changer. Mais tu ne vas pas changer le reste de l'intrigue. Et toute l'intrigue, elle est craignos. Enfin, c'est l'histoire. Moi, attends, à une soirée déguisée, je me suis déguisée en Sandy à la fin de Grease quand elle arrive en culotte. Toi aussi, j'imagine. En plus, avec tes cheveux, ça s'y prête parfaitement. Mais ça nous raconte quoi? Bah, finalement, comme la petite sirène, quoi. Que pour plaire à Dani, il faut que tu changes qui tu es. Et que tu couches et enfin en fait voilà c'est ça que ça nous raconte, c'est archi toxique. Puis en plus il y a quand même plusieurs agressions sexuelles puisqu'il essaye de lui toucher les seins.
Ouais complètement.
Je suis pas rentrée dans les
la notion
autres...
de consentement aussi elle est complètement pas ok dans
de toute façon John Travolta franchement pas ouf hein, sa filmographie parce que même dans La Fièvre du Samedi Soir c'est une catastrophe là, en termes de violence sexuelle. Donc voilà, donc en fait Grease, si on décide de nettoyer Grease, il y a plus de Grease. Mais voilà, à l'échelle de la chanson, je pense que tu peux changer une phrase. Et c'est d'ailleurs ce que je raconte avec Blanche-Neige. Et là, pour le coup, c'est la VF. Quand elle parle de son envie d'être avec le prince et tout, les sept nains lui posent des questions. Et l'un des princes lui dit « Vous a-t-il volé un baiser ?» Bon, est-ce qu'on est obligé de dire « voler un baiser » Parce qu'en fait, il n'y a pas de baiser volé. Il n'y a que des baisers forcés. Et donc, ce sont des agressions sexuelles. On peut le changer. C'est ce que je dis. On peut dire autre chose. « Vous a-t-il donné un baiser ?» Voilà. Vous êtes-vous embrassé? Ça sonnerait pareil, on peut dire d'autres choses.
Oui, c'est une façon, en fait, c'est juste de changer quelques mots. Ça change tout le sens de la phrase, en fait.
Ouais.
C'est fou.
Mais comme... c'est archi... Enfin, maintenant, ça va avoir presque 100 ans, tu vois, Blanche-Neige, par exemple. Donc, pour moi, c'est un travail d'éducation. C'est quand tu montres ça, si tu es parent, cousin, sœur, j'en sais rien, et que tu es avec un petit, une petite, lui expliquer. C'est pour ça que je trouve que mon livre est nécessaire. C'est en fait pour ouvrir les yeux de ceux qui n'ont pas encore les yeux tout à fait ouverts et leur inviter à questionner ces choses-là, mais sans leur dire « Ah, vous craignez, vous êtes problématique parce que vous les regardez et parce que vous êtes fan de Grease. » Non, je suis fan de Grease. Justement, je trouve que c'est ça qui est important aujourd'hui.
Et puis tu le dis
dans le féminisme
suite.
Aussi, c'est de nous autoriser à aimer les choses problématiques.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est la nostalgie, c'est ce avec quoi on a grandi.
Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que, donc tu l'as dit, t'as plus le poster de Kill Bill. tu peux plus le voir, ce film-là? Tu peux plus le regarder?
Déjà, je l'ai énormément vu. Enfin, vraiment,
oui,
les deux Kill Bill.
Pour le livre, oui.
Non, mais même avant, enfin, je les connais par cœur.
Et t'as dû le revoir différemment, du coup, pour le. faire des arrêts sur image, noter des choses.
Et c'est chiant parce que moi, vraiment, pendant longtemps, c'est le film qui me donnait de la force. Mais alors après, faut aller s'interroger là-dessus. Mais là, c'est dans le cabinet de la psy que j'en parle, tu vois. Mais de à quel point j'ai ingurgité des films très, très violents en me disant « Bah non, mais c'est OK, une telle violence. » Donc, ça aussi, ça mérite qu'on s'interroge. Aujourd'hui... Bah déjà, après avoir travaillé sur ce livre, j'en ai un peu ma claque de regarder des films avec beaucoup de violence.
Ouais.
Mais tu vois, en ce moment, je me refais Gossip Girl. En fait, ça me détend. Ça me détend, mais en fait, c'est insupportable. C'est presque du hate-watching.
Ouais. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais tu vois, c'est New York, j'aime les tenues de Blair et Serena. Ouais. Et puis, je regarde encore des Disney.
Oui. Non, mais on en parlait, je crois, en off. Je sais plus si c'est enregistré, mais il y a pas longtemps, je me suis refait Friends en l'honneur de la mort de Matthew Perry, parce que c'était en plus mon personnage préféré. Et oui, il y a des moments où Ross, j'en pouvais plus. Et en même temps, j'ai un peu l'impression qu'ils font partie de ma famille, quoi. Parce que.
Ils font partie de notre famille. En fait, c'est hyper intéressant que tu dises ça. C'est qu'en fait, tout ce qu'on se décrit, ça fait partie de notre famille. Ouais. Je veux dire, le tonton relou, tu vois, où ça fait. 200 ans, je sais pas, qu'on les appelle les tontons relous, mais en fait, non, ce sont des agresseurs.
Ouais, tu vois,
le tonton qui, quand t'as 11 ans, te touche les seins, oh, ça pousse ou quoi, mais ça ne se fait pas, en fait. Mm. Donc justement, ça revient au même. Et moi, je pense que c'est ça qui est important et astucieux dans le fait de prendre le problème par la culture et la pop culture, c'est qu'en fait, ça permet un premier pas dans la prise de conscience.
Ouais.
Mais quand tu remets en question tes héros, tu te remets en question toi-même et tu remets en question tes copains et ton père et ton frère.
C'est ça.
Et j'ai tout un chapitre sur, qui s'appelle « Vos héros préférés sont des agresseurs ». Clairement, c'est les papas qui transmettent l'amour de Indiana Jones, l'amour de James Bond à leurs fils. Et en fait, on se transmet ça de génération en génération, l'admiration pour ces héros-là. Mais ce sont des héros qui agressent ou violent.
Oui, avec le genre privilégié. Et ça, j'ai clairement reconnu ça dans ce chapitre sur ma vie personnelle où mon père, ça a toujours été les films d'action. Mm. Mais je pense pas que c'était conscient de sa part de regard, il faut que tu vois des hommes méchants, etc. C'était plutôt que lui aussi, il a été baigné dans ça. Et c'est super dans ce bouquin-là parce que tu traites de la pop culture et j'ai vraiment qu'il y a eu cette idée de dire, regardez, en fait, on est tous ensemble.
Oui.
ça nous concerne tous et c'est OK. Mais par contre, comment après, qu'est-ce qu'on fait avec l'après, qu'est-ce qu'on fait avec les adaptations, qu'est-ce qu'on fait en regardant ce film-là, ou même en parlant. Je pense que ce qui est bien, c'est que, comme tu dis, tu continues à avoir Gossip Girl. Par contre, dans les soirées avec les copines ou les copains, tu dis, bon, on est bien d'accord que lui, c'est problématique et que lui, on le boycotte sur ce personnage-là. C'est comment tu refais vivre avec tes mots la série.
Ouais. Mmh. Non, mais là, t'as dit plusieurs choses. Mais déjà, oui, clairement, on est tous dans le même bateau, sauf que les femmes en sont davantage victimes.
Oui,
ça, j'insiste quand même. Mais ensuite, c'est normal que... Enfin, ton père, mon père... moi, mon père, ça l'a saoulé quand je lui parle d'Indiana Jones, tu vois, parce qu'ils adorent Indiana Jones, mes parents. Mais d'Indiana Jones, quand il chope la nana avec son lasso, là, et qu'il la ramène comme du bétail... non, c'est pas dingue, papa. Mais en fait, le problème, c'est que eux, nos pères... c'est normal qu'ils ne voient pas le problème parce que ce n'est pas présenté comme problématique. Une fois qu'Indiana Jones récupère sa meuf avec son lasso, tout le monde rit, ils applaudissent, ah c'est trop bien, ils finissent ensemble. Quand James Bond force des femmes à l'embrasser, alors il y a tout ce jeu de « oh non, mais à la fin c'est des violons, c'est romantique, le public est content. »
Le western aussi.
Mais donc en fait, le forcing... Mais qui s'appelle de l'agression, est célébré dans ces films-là. Donc c'est normal, tant t'imagines. Nous, on commence tout juste, en fait, à comprendre et à avoir les outils.
Oui.
Mais moi, je me réjouis. Là, tu vois, l'été dernier, avec ma cousine, qui est un peu plus jeune que moi, on a regardé Mulan. En fait, il y a un moment, je crois que je l'ai enlevé dans le livre, mais il faut, je sais plus, la chanson qu'il faut rendre hommage à l'empereur, et c'est les hommes en se battant, les femmes en enfantant.
Ouais.
Et du coup, ma cousine, elle m'a regardée, genre... Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. Elle se rend compte. Évidemment, je l'ai noté direct, quoi. Les hommes en se battant, les femmes en enfantant. Cool. Et je me revois à l'époque de Mulan chanter la chanson à tue-tête.
Oui.
Et donc aujourd'hui, quand Gossip Girl est arrivé en 2008, je pense, donc moi j'avais 17-18 ans, en fait avec mes copines, on était juste là, waouh, qu'est-ce qu'il est hot, Chuck Bass. À aucun moment je disais, ouais, mais c'est pas cool quand même, il essaye de violer Jenny. À aucun moment. Donc je me dis, génial, en 20 ans, on a progressé.
Ouais, et grâce à ton livre, on va progresser.
J'espère. Si ça peut ouvrir quelques yeux, je serai vraiment heureuse.
On va parler un petit peu de communication, si ça te va. Sur les réseaux sociaux, tu utilises beaucoup Instagram, tu postes des choses, tu relayes aussi toutes tes productions, on t'y voit. Comment tu l'utilises et comment tu te perçois justement sur les réseaux ?
D'abord, je le dis le plus sincèrement du monde, je déteste les réseaux sociaux. Vraiment, je déteste... dès que je peux. Là, récemment, je suis partie une semaine en vacances et j'ai laissé mon téléphone chez moi. J'essaye de le faire régulièrement le week-end. En fait, il n'y a que ça qui me repose. Je trouve que c'est affreux de devoir se soumettre au jeu des réseaux sociaux. Mais pour autant, je considère que j'ai pas le choix parce que en tant que journaliste indépendante et autrice, en fait, c'est ma vitrine. Et vu que je dois marketer mon identité de journaliste et ce que je fais, j'ai pas le choix. Mais mon compte date de 2020. Avant, j'étais sur Insta, mais avec un pseudo à la con et juste pour m'informer et suivre quelques influenceuses mode. Mais donc voilà, ça fait quand même pas si longtemps que je m'y suis mise et ça fait encore moins longtemps que j'essaye de partager de façon rigoureuse mon travail, de montrer un peu ma tête parce que j'ai compris que c'est ça qu'aime l'algorithme. Mais pour moi, ça me coûte. Je pense qu'on a l'impression que je kiffe parce que je partage beaucoup et j'essaye de le faire proprement. Mais vraiment, pour moi, c'est fastidieux. C'est pas vraiment un plaisir. Et dès que je tombe dans « Oh non, mon post, il a floppé. Oh, trop bien, j'ai plein de likes. »
Ça t'arrive de penser à ça, du coup?
Ah bah, ouais. Oui, ah mais ouais. Dès que je me vois en train de penser ça, j'ai un peu de honte. Je me dis « C'est nul. » Enfin, vraiment, là-dessus, je suis boumeuse, mais je regrette le temps où ma vie fonctionnait pas comme ça. Où ouais. Je me disais pas que la valeur de ce que je faisais dépendait de mon nombre de likes.
Et en même temps, comme tu disais, c'est ta vitrine. Oui. Enfin, moi, je sais que j'utilise aussi mon compte Instagram comme un LinkedIn. Et si par moment, j'utilise pas, bah, peut-être que je vais pouvoir louper des opportunités de travail. Et c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Mais après, oui, on court à un algorithme qui est chronophage et qui est dur. Qui est vraiment
déjà
dur.
Actuellement, enfin, moi, c'est pas du tout ma spécialité. Hein. En plus, Internet, les réseaux, je comprends pas grand chose au fonctionnement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est devenu n'importe quoi. Enfin, moi, je ne comprends rien à Instagram. Ouais. Mon compte a été certifié récemment et j'ai quand même beaucoup plus d'abonnés qu'avant, même si j'en ai pas beaucoup, j'en ai 8000 et quelques. Et j'ai jamais eu aussi peu de visibilité. Enfin, tu vois, je me dis, bon, ça n'a pas de sens. Il valait mieux que j'ai 2000 abonnés, mais que mes choses soient vues. Donc, franchement, je comprends pas comment ça marche. Mais moi, en revanche, depuis toujours, enfin depuis que je travaille, ma règle d'or, c'est tout ce que je fais doit être possible en dehors des réseaux sociaux. C'est-à-dire, si demain il y a un gros bug ou si demain, je sais pas, l'humanité change et qu'on se rend compte qu'on s'en fout d'Insta et Facebook et Twitter, j'en parle même pas, enfin X, je veux dire, tout ça, et ben moi, il faut que ma carrière, elle n'en pâtisse pas.
Ouais.
Donc, il faut que ça se passe en dehors. Ouais. Et ça, je trouve que je tiens bon là-dessus. Dans le sens où c'est un plus. Enfin, un plus ou un moins. Mais en tout cas, c'est autre chose. Ouais. Moi, je ne pourrais pas accepter que mon métier, ce soit les réseaux sociaux. Franchement, j'en serais malade. Parce que dès qu'il y a un bug ou quoi, c'est affreux, en fait. Tu dépends de ça. Et je trouve que... Enfin, parfois, quand je vois des personnes qui ont leur compte suspendu ou qu'on leur supprime la page ou quoi... Ouais. Mais je sais, mais c'est affreux,
c'est,
en fait,
c'est
les
comme
personnes.
Si t'enlèves une partie de ton humanité ou de ton travail.
Maintenant, c'est ça aujourd'hui. Ouais. Enfin, tu vois, des communautés, j'en sais rien, mais en général, ce sont des communautés de plus de 100 000 abos. Et tu te dis, waouh, on l'ampute d'un membre, quoi.
Mais tu te prêtes quand même au jeu de la promotion par rapport à tes bouquins sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui quand même là un peu te plaît parce que c'est une part de toi avec les livres et c'est aussi bien que tu puisses le défendre.
Bien sûr.
En interview.
Non, mais il y a des choses positives. C'est très chouette de pouvoir échanger avec des inconnus. J'ai noué des amitiés via les réseaux sociaux. Hein. Et d'ailleurs, rien qu'à une occasion comme le Pop Woman Festival, c'est très agréable de rencontrer des femmes que je suis sur Insta, et là, on se voit, et puis on noue de vraies relations. Enfin, voilà, il y a quand même la dimension sociale dans les réseaux qui est agréable, et de façon un peu égocentrique, égocentrée, c'est agréable d'avoir des messages d'inconnus qui te félicitent pour ce que tu fais. Ça vaut quelque chose.
Ouais.
Donc ça, je crache pas du tout dessus. Hein.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est que moi, d'un avis externe, je trouve que t'es hyper à l'aise. J'adore si je peux dire, la com que tu fais, ou en tout cas ce que tu présentes et comment tu diffuses des informations. Et ce que je trouve ça intéressant, c'est que c'est pas pareil de ton côté, ou en tout cas, comme tu le dis, t'aimes pas les réseaux sociaux. Et ça, on le voit pas sur les réseaux. Et ça, les gens le comprennent pas. Qu'en fait, on met pas totalement nous. Que c'est aussi un travail et que c'est pas tout le temps magique. Moi, quand je partage des choses, je bosse avec DC Comics. Oh non, mais c'est incroyable. Mais en fait, c'est 5 ans de travail. J'ai pas vu mon mec certains soirs. mais ça, j'ai pas forcément envie de le montrer parce que je veux que ça reste mon intimité à moi.
En fait, j'y prends quand même du plaisir. Bien sûr, je pense que je me suis peut-être exprimée de façon trop catégorique. Je prends quand même du plaisir à ça parce que, très honnêtement, si j'en prenais pas, je le ferais pas. Enfin, ouais. Là-dessus, sur le travail, je suis pas maso. Mais en fait, c'est... Enfin, je pense que c'est comme dans l'art, même si là, je considère pas que je fais de l'art sur Instagram. C'est qu'en fait, il faut pas que ça ait l'air difficile, forcément. Il faut pas que ça ait l'air douloureux. Enfin, tu vois, comme une chanson... Il faut pas qu'on ait l'impression que tu as galéré à la composer. Il faut qu'elle soit évidente, que ce soit fluide. Et c'est pareil pour un article et c'est pareil pour un livre. Là, moi, comme je suis très transparente et que je sais pas tenir ma langue, je pense qu'en interview, il va falloir que parfois je réfléchisse un peu. Mais là, je te l'ai dit, ce livre, il a été douloureux pour moi à écrire. Mais d'ailleurs, je l'écris dans le livre lui-même.
Oui.
Mais j'espère qu'à la lecture, on se dit pas « Waouh, elle a l'air d'en avoir chié à ce moment-là, tu vois. » J'espère que c'est fluide. Et en fait, c'est ça le but quand on produit. Ouais.
Moi, je trouve ça inspirant parce que j'essaye aussi d'écrire un livre avec donc Floriane sur les personnages féminins dans les comics. Et c'est vrai qu'avec toutes les productions qu'il y a aujourd'hui, ça a l'air facile. Enfin, en tout cas, voilà, il y en a tous les mois des sorties. Et d'entendre ton discours, moi, ça me rassure parce que des fois, c'est même douloureux, même avant d'écrire. Juste, j'ouvre l'ordinateur.
Mais c'est le plus dur. Là, ce que tu décris, c'est le moment le plus dur.
Ouais.
C'est horrible l'avant. Enfin, l'avant et le pendant, c'est-à-dire que moi, comme je travaille en dehors de l'écriture, Désirer la violence, il y a eu des phases de 2 semaines, enfin même parfois 3 semaines, je pense, où j'ai pas pu écrire tellement j'avais d'autres choses à faire à côté. Et c'est tellement dur de s'y remettre.
Ouais.
En fait, il faudrait, hein, franchement, un bouquin, il faudrait ne faire que ça et n'être embêté par rien d'autre. Pour être dans ta transe, parce que moi, je trouve que ça ressemble à de la transe, tu te mets dedans, t'en vois pas le bout. Mais moi, j'ai fait du 7 jours sur 7, des journées hyper longues, parce qu'en fait, c'est une espèce de concentration où il faut atteindre un point de confiance en toi où tu te remets pas en question. T'écris, t'avances. Mais en fait, dès l'instant où t'as un peu de temps, donc surtout l'avant, ou le pendant quand tu fais des pauses, là tu recommences à te dire « Attends, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que j'en suis capable ?» Tu perds un temps fou, tu deviens folle. Enfin moi vraiment, il y a des moments mais de larmes.
Tu te relisais à chaque fois la relecture, ça me perturbe.
Je procède par grande partie. Parce que vraiment, sinon, tu t'en sors pas. Enfin, en fait, faut vraiment, c'est ça. Hein. Ça se quantifie pas, mais il faut vraiment avoir confiance en soi dans l'écriture. Moi, je te dis, c'est mon discours. Peut-être que des personnes te diront pas ça, mais en fait, faut avoir un stade, un palier où tu refuses de te remettre en question. Parce que sinon, tu n'avances pas. Et là, y a plus long, hein, mais moi, c'est 224 pages, le bouquin. Il fallait bien avancer, quoi. Faut avancer. Donc, t'écris. Et après, non, moi, je me relis par grande partie.
OK.
Mais ouais, c'est super dur d'écrire parce que c'est vraiment un match avec soi-même, quoi. Et pour moi, ça se joue dans la confiance en soi. Tu dois être intimement convaincu que ça vaut quelque chose de faire ce projet et t'es ton propre moteur.
J'imagine qu'après, ta confiance, elle est décuplée.
Bah, c'est ça qui est excitant. C'est qu'en fait, au fur et à mesure des projets, mais moi, ça me le fait même avec chaque... Enfin, depuis 10 ans, chaque article, chaque reportage sont des opportunités de me prouver que je peux le faire. Donc en fait, tu vois, t'as une jauge comme dans les, je sais pas, les jeux vidéo là, t'as une jauge et elle se remplit comme dans Just Dance. Et ça se remplit,
et hop,
ça se remplit.
L'étoile magique.
Et ça fait des paillettes et ça fait une étoile magique et en fait c'est galvanisant ça.
Ouais.
Et là, je te le cache pas, en ce moment, pas plus tard qu'hier soir, on m'a dit alors ton livre c'est fini et tout et alors t'es contente et je dis je suis pas contente, je suis fière. Et vraiment quand t'arrives à un point de juste fierté de toi, mais pas de façon prétentieuse, genre ouais, c'est vraiment le meilleur livre du monde. Juste, je l'ai fait et je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire et je sais ce que ça représente. C'est pas que ça vaut tout l'or du monde, mais ça t'aide vraiment, vraiment à gagner de la confiance en toi, professionnellement.
On va terminer, malheureusement. Je pense que je pourrais rester 4 heures à parler avec toi.
Moi aussi, c'est un grand plaisir.
Tu peux peut-être juste revenir sur quand est-ce que sort le livre. Et je crois qu'il y a un événement à Paris, dans une librairie.
Alors, mon livre donc, s'appelle « Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer » aux éditions Les Insolentes. Et donc, il sort le 24 avril. Et le soir même, il y a le lancement du livre ouvert au public. Donc, tout le monde est bienvenu à la librairie. Un livre, une tasse de thé à Paris, à République. Et il y aura ensuite le 30 avril une rencontre dédicace à la librairie des femmes dans le 6e à Paris. Et un mois après, le 24 mai, une rencontre dédicace à la librairie Majot.
Ok, super.
Donc il y a trois rendez-vous là parisiens autour du livre. Si ça vous intéresse, je serais ravie.
Et puis il y a super librairie en plus. J'adore.
Oui,
c'est vraiment très très chouette.
Je suis vraiment honorée par ces invitations.
Trop bien. Bah, merci Chloé.
Merci à toi.
C'était très chouette cet épisode-là. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas à lire ce livre. Vraiment, c'est
C'est une claque, c'était vraiment trop bien. Et je vous dis à bientôt.